putain de cellule au premier étage. Je te réinstalle sirène gueule et quelques poussins un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du bastou dans la tôle. Y'a du bastou dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. Avec des mitraillettes, il y a du baston dans la tôle. Y a du baston dans la tôle. Y a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Tu as fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Tu as fait les mecs, ça va saigner.
Salut à toutes et à tous, vous êtes bien dans l'émission L'Envolée comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Et donc, pour rappel, pour nous appeler en direct, c'est au 01 40 05 06 10. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-fpp. Vous pouvez aussi nous joindre sur Snap, WhatsApp et téléphone, mais ça, on va vous donner les contacts dans 5 minutes. On va juste commencer l'émission par lire une lettre d'un prisonnier, de Mika. Après, on va revenir rapidement sur comment ça se passe avec le gouvernement, comment ils essayent de continuer à nous fumer avec Dupond-Moretti, Darmanin, etc. On va recevoir un appel d'un prisonnier du CRA de Marseille. On vous en a parlé la semaine dernière. Il y a eu des grosses luttes durant tout l'été là-bas. Il y a possiblement une expulsion assez massive qui est prévue. Et du coup, il y a des prisonniers de là-bas qui vont revenir avec nous sur comment ça se passe. Et peut-être un appel de quelqu'un qui est dehors pour raconter aussi. Et vu que j'ai oublié vite fait, il y a Serge qui est au bocal. Il y a Lass qui est avec nous.
Salut, salut, salut.
Salut tout le monde.
Et il y a Alex du coup qui vous salue. Et bon, bah voilà, à partir de la semaine prochaine, a priori, on sera plus là, quoi, plus nombreux.
Et puis, bah, pour rappeler, peut-être pour nous joindre, 01 40 05 06 10.
Pour nous joindre, c'est 01 40 05 06 10. Vous pouvez aussi nous joindre au 07
52 40 22 48, donc sur WhatsApp, Signal. Et donc voilà, l'adresse, on l'a déjà donnée. Il y a le site internet aussi, si vous voulez réécouter les émissions de radio qui sont aussi disponibles en podcast. Voilà, mais on refera un petit point à la fin de l'émission sur tous les contacts. Et du coup, Serge, tu vas commencer par nous lire la lettre de Mika.
Ouais, ça, c'est une lettre de Lika. Merci de m'avoir écrit, c'était cool. Pour ce qui est de la détention ici, je déconseille le QMC, quartier Maison Centrale. Il n'y a ni formation, ni école, ni rien du tout. En plus, même côté travail, c'est restreint. Les surveillants sont des jeunes tout juste sortis de l'école et même pas encore titulaires. En fait, ici, si t'es sans parloir, sans revenu de l'extérieur, c'est la déprime et le suicide assuré. Côté santé, c'est la galère. Nous, les gars du QMC, on est ignorés et mal soignés. En gros, on doit se démerder par nous-mêmes. Si tu veux faire passer ces infos, tu rendras service à plein de détenus. Au QI, c'est pas mieux. Ils ne respectent pas le régime alimentaire. Les horaires des activités, certains surveillants nous donnent le courrier quand ils veulent. Ça m'est déjà arrivé qu'ils le donnent une semaine après qu'on l'ait eu. Bon, je te laisse tranquille. Prenez soin de vous, Mika. Bah écoute, merci de ta lettre. Je pense que ça parle sur pas mal de quartiers Maison Centrale. Enfin voilà, c'est assez classique. Voilà, donc voilà. Et de toute façon, je pense que les gens à l'intérieur sauront d'où on parle. Donc voilà. Et pour rappel, ce qu'on avait déjà dit la semaine dernière, c'est qu'on est en train de préparer un numéro pour la semaine, enfin pour dans un mois. Et donc, faut pas. Enfin, c'est le moment de nous écrire pour qu'on puisse mettre les lettres à l'intérieur du journal et tout. Il y aura déjà des dessins. Voilà.
Ah super.
mais il y aura, ah, cool. il y aura
c'est vrai que je faisais
aussi
des dessins, hein.
Toutes les lettres de l'intérieur.
Cool.
Et voilà.
Ouais. Et du coup, mon journal, il sera plutôt prêt d'ici deux mois. Hein,
faut non, pas... mais on le prépare pour dans un mois. Enfin, ça, oui, ça veut dire qu'il sera prêt dans deux mois, c'est vrai.
Et on voulait en profiter aussi pour passer une grosse dédicace à l'infâme. Si jamais tu nous entends, on reviendra peut-être avec toi aussi plus longuement sur les problèmes de santé en QI. Mais on sait que ça va pas trop. Et du coup, beaucoup de force à toi.
Mais c'est vrai qu'en fait, le journal, moi, j'en ai reçu un. Et je pensais qu'en fait, c'était tous les mois. Donc je commençais à me poser des questions. Est-ce qu'ils ont censuré? Est-ce qu'ils ont bloqué les journaux? Et en fait, non. Tu m'as dit qu'en fait, non, il faut pas attendre chaque mois un truc comme si c'était le Parisien, quoi. C'est...
Non. Bah ouais, c'était. Donc on n'est pas le Parisien.
Non, mais bien sûr, rien à voir.
Mais ouais. Non. Mais t'as raison. Mais c'était ce qu'on disait dans le numéro 50 et qu'on n'a pas répété dans le 51, celui que t'as reçu, qu'on reprenait avec un rythme pas régulier, parce qu'on n'arrivait pas à garder cette régularité et tout ça.
Franchement, je l'ai dévoré. Je te jure, je l'ai reçu, je l'ai lu en 10 minutes, 20 minutes, j'ai pris un petit café, je me suis posé, je l'ai lu et j'ai tout dévoré, quoi. J'ai tout lu. C'est super intéressant, ça parle vraiment de choses concrètes, de choses dures, mais de choses réelles et intéressantes, quoi. Intéressantes pour notre situation, et franchement, c'est bien parce que ça informe, en fait. C'est des trucs qu'on ne parle pas aux journaux, c'est des trucs qu'on n'entend pas à la radio, qu'on n'entend pas aux journaux télévisés, de TF1, de France 2. Et voilà, vous parlez de choses concrètes, de choses vraiment qui se passent, c'est des choses dures. Des choses dures qui mériteraient, quoi. Plutôt que des faits divers qui passent à la télé, je sais pas quoi, le fromage de Franche-Comté, la vache qui, je sais pas quoi, qui se fait...
Fais attention qu'il ne dit pas trop le fromage de Franche-Comté, quand même. Avec moi,
non,
ça peut
être sensible. Il est super bon, le fromage de Franche-Comté. Hey, tous les agriculteurs de Franche-Comté, je vous salue.
Mais c'est vrai que voilà, le dernier numéro qu'on a fait, c'était un petit numéro parce qu'il y avait des choses à dire qui étaient importantes, tout ça. Non pas qu'il n'y en avait pas d'autres, voilà, mais il fallait que ça y paraisse vite. Et puis on devait en faire un en avril. Et puis entre temps, il y a eu une gestion catastrophique de la crise sanitaire qui a fait qu'on n'a pas pu le faire. Pas de notre part, hein, de la part de l'État. Et voilà. Et donc c'est pour ça que là, on a trouvé moyen de se retrouver en octobre. Et donc voilà, en novembre, ça arrivera. Voilà. Par contre, ce que tu disais, c'est important parce que c'est vrai que cette question de la censure, elle est permanente, de l'envolée. Il y a 6 mois ou un an, peut-être maintenant. Il y a une prisonnière qui était à Nantes avec l'avocat Benoît David qui a réussi à faire sanctionner l'administration pénitentiaire parce qu'ils avaient retenu le journal de manière complètement illégale. Voilà, et donc il y a eu une décision de justice. Voilà, c'est rare qu'il y ait des décisions de justice dans le sens de l'envolée, hein, donc pour une fois on peut le dire. Mais c'est pas une question de l'envolée, c'est une question de la presse.
Hein, j'ai eu quelques fouilles après avoir reçu le journal, j'ai eu quelques fouilles un peu bizarres, tu vois. J'ai commencé à me poser des questions, je commençais à me dire ouais, c'est un peu limite, tu vois.
Bah c'est...
J'ai commencé à me dire ouais, je vais être surveillé, peut-être ils doivent me prendre pour un fauteur de troubles, ou je sais pas, tu vois. Après ça. On commence à devenir paranoïaque en fait, un petit peu, tu vois.
Bah ouais, puis ils te mettent la pression pour.
Ouais, une petite pression, voilà, mais ça va, c'est pas méchant. Moi, ça n'a pas été plus loin. Parce qu'après, il n'y a pas eu d'autres numéros, mais moi, je me suis vraiment posé la question s'ils avaient censuré, s'ils m'avaient bloqué les numéros, en fait.
Ouais.
Après, tu m'avais dit donc non, mais bon, tu m'as rassuré.
Bah, là, pour ça, non, mais par exemple, là, on a clairement la certitude que, par exemple, à Saint-Étienne, l'administration pénitentiaire bloque le courrier. Voilà, on sait qu'il y a des gens qui se sont abonnés à la Talaudière. C'est des courriers qu'on n'a jamais reçus. Voilà, donc on va bientôt en parler, un peu plus longuement que comme ça.
Et c'était aussi le cas à la MAF des Baumettes l'année dernière.
Donc on sait que dans plein d'endroits, ils interdisent le journal et tout, mais pour des raisons complètement illégales. Voilà, mais par rapport à ça, et d'ailleurs, bon, on sait qu'il n'y a pas tous les prisonniers qui peuvent nous entendre et tout, mais vraiment, très sincèrement, on répond à tout le courrier. Voilà, parfois on répond avec un peu de retard, faut être honnête. Voilà, mais si au bout d'un mois vous avez pas de réponse, nous on aura répondu. Voilà, c'est juste que c'est l'administration pénitentiaire qui aura bloqué. Voilà, on répond pas toujours du tac au tac, mais on répond toujours à minima en envoyant le dernier journal. Voilà. Et donc, juste pour les personnes qui sont à l'intérieur, qui se disent « Merde, on n'a pas de réponse et tout ça », si on a reçu le courrier, en un mois, on répond. Donc après, derrière, il y a plein d'endroits où ils peuvent censurer, quoi. Ils peuvent censurer soit la lettre avant qu'elle parte. Voilà, donc n'oubliez pas qu'il y a plein de manières de faire sortir des lettres. En ce moment, dans les parloirs, c'est plus compliqué. Mais voilà.
Si, dans la chaussette.
Mais en ce moment, vu que tous les contacts, c'est quand même prendre un gros risque. Mais de l'autre côté, si nous on reçoit la lettre, on répond en un mois max, et on essaye de faire en plus court et répondre dans la semaine. Mais voilà, c'est juste pour le rappeler tout ça.
Ouais. Et du coup, on va passer un tout petit peu de musique, peut-être avant de passer sur la discussion sur Dupond-Moretti et le gouvernement. Je crois que j'ai fait paniquer Serge, ses yeux ils sont sortis des barres. Enfin bref, ouais, on va juste passer un tout petit peu de musique parce que c'était pour après l'explication un peu longue sur la censure et l'envolée. Et on revient dans deux minutes.
It's for you. It's for you. Bang. Yeah, it's for my street niggas. Feel it. On the count of three, say fuck the police. 1, 2, 3, and fuck the police. Yeah, fuck them. Applaud any nigga.
Damn right.
Cause we can lose a few, but we got enough of them. My niggas on the corner, they be dodging and ducking them. Chickens getting pulled over, end up crushing them, for real. And see, now we got these fake cops. I thought he had a gun, I made a mistake, cops. I hate cops. Turn on the TV, is this another cop busted for illegal business? They got it control, they got it in their minds. They pulling you over, they hopping inside. Just know you got drugs and know you got guns. And they know when they mad, when they can't find none. Stupid, don't you know that your man is a stash box? That he be in the need a key to get in it. Any offended people suck my balls. All y'all off the wall, get stupid, dawg. Don't hold back, don't let go, go. Don't say damn, just say whoa.
Police. Vous êtes bien de retour sur FPP 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Et donc, pour rappel, pour nous appeler pendant l'émission, c'est au 01 40 05 06 10. Et pour nous joindre toute la semaine en dehors, c'est au 07 52 40 22 48. Du coup, bon, là, on a coupé un peu brutalement la musique. L'idée, c'était de faire une petite pause avant d'enchaîner sur une discussion sur la construction médiatique, là, parce qu'on était en train d'en parler tout à l'heure. Les constructions médiatiques qu'il y a autour du gouvernement pour nous faire croire que. Ils n'ont pas fait de sécuritaire pendant 3 ans pour nous faire croire qu'avec Dupond-Moretti, tout d'un coup, ils vont s'intéresser aux prisonniers et aux prisonnières. Et du coup, on voulait revenir un peu là-dessus et commencer un peu aussi à déconstruire tout ce discours. Et d'abord, on voulait peut-être commencer par comment ça a été perçu à l'intérieur.
Je suis concerné vu que la première chose que M. Dupond-Moretti a faite, c'était de venir à Fresnes. Et je peux vous dire que ça m'a choqué personnellement, ça a choqué beaucoup de monde. Moi, en fait, je vais vous dire comment j'ai reçu la nouvelle. J'étais en retour de parloir, j'étais dans la salle d'attente des parloirs, et il y a un mec qui dit « Ouais, Dupond-Moretti va venir, truc de ouf, Dupond-Moretti va venir !» Et moi, je croyais que c'était une blague, en fait, je croyais qu'il se foutait de notre gueule. Donc je le prenais pas au sérieux, parce qu'il y a plein de mythos, il y a plein de gens qui racontent de la merde, en fait, en prison, et je me suis dit « Bon... » C'est une information comme une autre qui est passée dans mon oreille et qui a sorti par une autre. Quoi.
Et en plus, là, il est nommé depuis même pas quelques heures, je crois.
Ouais, c'était un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Moi, j'étais choqué. Hein. Pour vous dire la vérité, j'étais choqué. Je retourne dans ma cellule. Après le parloir, je retourne dans ma cellule. Et je sais plus c'était quel jour, là. Et je suis dans ma cellule et... je sais pas si je peux le dire, Serge. J'étais en train de faire un truc et j'étais en train de mastiquer, tu vois, j'ai pas envie de choquer les gens, tu vois, j'étais dans ma cellule, j'étais tranquille dans ma cellule, tu vois, et j'entends bam 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 bam, j'entends que ça tape dans les portes, ça tape dans le, tout le monde fait du boucan, ça commence à gueuler, bam bam, aux fenêtres, ça commence à taper avec les casseroles et tout, bam 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 bam, et là je me dis attends, c'est chelou, je commence à réfléchir, et après, parce qu'en fait moi j'avais plus de télé. Je sais pas, c'est une histoire qui est super longue. Hein. Je sais pas si je raconte, parce que moi, j'ai pas vu en direct. Moi, j'ai pas vu la télé, ce truc-là, tu vois. Moi, je l'ai vécu, en fait, par le son, tu vois. J'avais pas de télé dans ma cellule. Moi, je me suis un peu embrouillé avec ma chef de détention. J'étais dans une cellule sans télé. Du coup, j'entendais du bruit, un boucan de ouf. Et après, en promenade, et quand je suis ressorti de ma cellule, c'est quand j'ai parlé avec les autres gens. Et ouais, ils m'ont dit, ouais, il est venu à Fresnes, truc de fou et tout. Et ouais, on en a parlé un petit peu. Parce que, en fait, voilà, pour vous dire, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Fresnes, Dupond-Moretti, il a une bonne réputation vis-à-vis des prisonniers. Parce qu'il a réussi à quitter plein de gens. Il a une très très bonne réputation. Et voilà, le surnom qu'on a, c'est Acquittator. Je pense que voilà, ça veut tout dire. Un peu un super-héros qui arrive à faire acquitter des gens, des causes perdues. Et pour la petite anecdote, j'avais mon co qui était chez dans le cabinet de Dupond-Moretti. C'était son avocat. Mais après, pour vous dire, lui, ça n'allait pas plus du tout, en fait. Parce que Dupond-Moretti, pour dire la vérité, c'est une personne qui est un peu intéressée et qui facture, en fait, beaucoup de choses, quoi. Il facture beaucoup de choses, la moindre petite requête, voilà, ça peut chiffrer très, très vite, en fait, avec
lui. Une simple DML, il va prendre masse de
pognon. Ouais, voilà. En fait, si tu n'as pas les moyens, c'est mort. À moins que tu sois une cause perdue, qu'il soit médiatique, si tu n'es pas médiatisé... Et t'as pas de sous, c'est mort. Dupond-Moretti, c'est impossible de l'avoir comme avocat. Donc voilà, je pense qu'il doit écrouler sous les demandes. Moi, je veux pas le juger non plus, tu vois. J'ai pas envie de faire le juge. Moi, maintenant, depuis que je suis passé devant un juge, je veux plus faire le juge devant personne, tu vois. Moi, je le juge pas, mais voilà, c'est une personne qui n'est pas facilement approchable. Mais le fait qu'il vienne à Fresnes, ça m'a touché. Je me suis dit, ouais, il est concerné par la cause des prisons, des prisonniers. Il est venu à Fresnes, c'est un signe fort. C'est la prison qui est considérée comme une des prisons les plus insalubres de France.
Grave, il aurait pu choisir d'aller à la santé. Hein, il aurait pu choisir d'aller à la santé.
Ouais, il aurait pu partir à la santé. Il aurait pu partir dans une prison plus propre, tu vois, pour les caméras. Non, il est venu à Fresnes. Mais après, tu sais que quand je suis sorti de prison, quelques jours après, j'ai regardé sur YouTube et tout des vidéos, tu vois.
Bah ouais, bien sûr.
Et
ouais.
J'ai reconnu, il est venu dans une division. J'ai vu la division. Tu sais, j'ai reconnu les coursives et tout. Mm-mm. Et il est venu dans une prison insalubre. Moi, pour moi, je me suis dit, c'est un signe magnifique. C'est-à-dire, moi, je suis concerné par les prisonniers. Je suis de leur côté. Ouais. Je ne suis pas du côté des magistrats. Et j'ai même écouté des interviews de lui après, qui dit qu'il n'aime pas comment c'est. Il n'aime pas comment les juges et les magistrats sont formés, comment les procureurs sont formés. En fait, ils sont formés ensemble. Lui, il aime pas ça parce que ça fait du copinage. Et du coup, ils peuvent pas vraiment s'affronter. Et du coup, ils sont contre les avocats, ils sont un peu en galère. Donc voilà, moi, j'ai pas suivi après, tu vois, j'ai pas été chercher ce qu'il a fait vraiment depuis tout ce temps. Nous, pour le coup, on a vraiment pris ça pour un coup, un vrai signe positif. On s'est dit, ouais, il va changer les choses, le mec. Il va mettre un coup de pied dans la fourmilière, il va remuer la merde, tu vois, il va réussir à faire en sorte qu'il y ait moins de causes perdues, entre guillemets, tu vois, de gens qui se fassent juger salement, qui prennent des causes, qui prennent des peines sales, tu vois, qui partent pour des années, pour de la merde, pour rien, pour des petits jugements de merde. Alors qu'il y a des gens qui mériteraient, tu vois, qui mériteraient. Même comment il s'appelle le maire de Levallois, là. J'ai oublié son prénom.
Bon, après, moi, je pense que la prison, on doit les supprimer. Donc,
ouais, bien sûr.
Mais après je vois ce que tu veux dire dans le sens où, pour pas mal de prisonniers aussi à l'intérieur, en fait, il y a des gens qui devraient prendre vachement plus. Voilà,
c'est ça, il y a des gens qui devraient prendre plus, qui prennent des petites peines. Voilà. Il y a des gens qui, pour rien, ils prennent des peines gigantesques.
Mais je pense qu'en vrai, bon, enfin après ça serait une autre discussion à avoir, mais je pense qu'en vrai les gens, enfin tu vois par exemple sur Balkany, moi voilà, en fait
ça m'a choqué ça aussi, tu sais.
Comment?
Tu sais, ça m'a choqué, pour moi c'est un mafieux. Le mec c'est un mafieux, le mec il va en prison, quoi.
Non mais
le
c'est
mec,
sûr
il a la voix d'un mafieux, il a une démarche d'un mafieux, il a la dégaine, il a tout, tu vois, ça sent que le mec il a un réseau de ouf.
En fait,
le mec il finit en prison, quoi.
C'est sûr que c'est un mafieux. Enfin, moi, je suis sûr que c'est un mafieux.
Chirac, tous les présidents, tous les gens, tous les politiques sont pas finis parce qu'on n'a pas été en prison. Et je comprends pas comment lui, il a pu finir en prison, tu vois, comment il a pu mettre un pied en prison, quoi.
Mais tu vois, cet été, moi, j'en discutais avec un pote, et il me disait la même chose que toi, en me disant putain, vas-y, c'est scandaleux et tout ça. Moi, je pense que la justice, elle a grave bien fonctionné, voilà, et pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a libéré un bourgeois. Et donc ça, pour moi, c'est la preuve. Enfin, quand tu prends vraiment à quoi sert la prison, elle a grave bien fonctionné dans sa vraie fonction, qu'on ne dit jamais, voilà. Mais elle a libéré un bourgeois tout en continuant à enfermer des pauvres et tout ça. Et au-delà de ça, bah, d'ailleurs, c'est Moretti qui le défendait, si je me rappelle bien. Voilà, il a été réellement bien défendu. Mais en fait, moi, je pense que lui, comme il a été défendu, tout le monde devrait l'être défendu de la même manière, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé en comparution immédiate. Il a, enfin voilà, et que si aujourd'hui on commence à demander à ce que ces gens-là, ils soient moins bien défendus, après, en vrai, moi ce que je pense, c'est que ça va, ceux qui vont prendre le plus cher derrière, ça va être les gens en comparution immédiate et tout, parce que les droits qu'on va perdre par les gens qui sont correctement défendus, en fait, ça va être encore pire pour les gens qui sont jamais défendus, quoi. Et c'est pour ça que. Enfin voilà, moi ce truc de dire toujours vas-y, ceux-là, il faudrait qu'ils prennent plus et tout. Souvent, c'est parce qu'ils sont bourgeois qu'ils peuvent se payer des avocats qui sont défendus correctement et tout. Et puis des avocats qui vont se battre vraiment. Voilà, ça va être sur des procès particuliers où il n'y aura pas de comparution immédiate et ce genre de truc. Mais voilà. C'est pour ça que, enfin voilà, moi je suis pas nécessairement super d'accord avec ce truc, mais je comprends ce truc. Enfin, quand t'es à l'intérieur et que tu vois ce gars sortir, voilà, ça te fout une rage de ouf. Tu le vois qui danse.
Tu sais qu'on s'est dit, hein, avec beaucoup de gens, on savait que c'était un coup médiatique aussi. On s'est dit, ouais, Macron là, il a fait un beau coup, tu vois. On s'est dit, là, il a mis vraiment une belle poudre de perlimpinpin dans les yeux de tout le monde, tu vois. Tu sais, ouais. Ça calme, tu sais, ça détourne l'attention en fait.
Ouais.
C'est comme Mourinho, je sais pas si tu vois Mourinho, le coach sportif. Ouais. Il disait en fait, lui, il faisait exprès de faire des coups médiatiques, tu vois, d'avoir une grande gueule pour détourner l'attention de ses joueurs en fait, pour pas que les journalistes en fait ils cassent les couilles à ses joueurs. Il faisait exprès de faire le mariole devant eux, de faire le fou, de dire les trucs de fou, voilà, pour les détourner en fait, pour préserver ses joueurs en fait. Et je pense que Macron, hein, c'est un peu ce qu'il a fait, tu vois. Il a mis Dupond-Moretti, il savait que ça allait faire un boucan médiatique. Et voilà, ça détourne l'attention, ça calme les gens, hein, sur Macron. Du coup, il peut travailler tranquillement, en fait. Il peut travailler tranquillement sur ses réformes, sur d'autres trucs, sur d'autres projets, sur ses dossiers.
En fait, faut aussi dire qu'au moment où Moretti il est nommé, ils ont déjà passé les grosses lois qu'ils voulaient là, du quinquennat en termes genre anti-terreau, etc. Et du coup, tous les gros trucs sont déjà passés. Et pour Moretti, sa nomination, elle n'enlève rien à tout ça. Et du coup, ouais, moi, je pense...
Il en reste une à passer, qui n'est pas passée d'ailleurs, mais qui était celle sur la rétention de sûreté pour les gens qui sortaient pour terrorisme.
Ouais, mais au moment où il est nommé, ça passe, ouais, ça passe déjà, à l'Assemblée. Quoi. Du coup, ce n'est pas lui qui mène le débat et il n'a pas à se mouiller en fait, sur les trucs un peu sales. Là, il y a la loi sur le séparatisme qui va arriver. Et du coup, en fait, il y a à nouveau une offensive là-dessus où il va devoir se retrouver à défendre des trucs totalement ouf, mais on va y revenir peut-être un peu après. Moi, je voulais juste faire le parallèle maintenant avec Darmanin, Vitef, pour dire qu'au moment du coup où il est nommé, le ministre de l'Intérieur qui est nommé, c'est Darmanin, donc qui est accusé d'avoir agressé plusieurs meufs, quoi. Et du coup, en fait, ça leur permet quand même, c'était depuis un an et demi, Castaner, s'il dégage, c'est parce qu'il a dû reconnaître qu'il y avait des violences policières et du racisme dans la police. Tous les syndicats de keufs, en fait, demandaient sa démission. Et là, ils vont placer quelqu'un qui est connu pour avoir relancé ces dernières années des débats identitaires, avoir lutté contre les listes communautaires ou je sais pas quoi, municipales, etc. En fait, lui, sa nomination, elle permet de renverser tout le débat qu'il y avait depuis un an et demi, qui était de dire, en fait, les keufs sont trop violents, ils sont trop armés, ils étaient censés avoir interdit la clé d'étranglement. Finalement, ils ont juste autorisé le taser, si j'ai bien compris.
Non, ils l'ont même remise maintenant, là.
Voilà, oui, c'est ça, ils l'ont pas interdit, ils ont juste autorisé le taser, quoi. Et en fait, par contre, ils ont renversé la discussion en disant, maintenant, il faut plus de sécuritaires. Et donc, on va nommer un espèce de sarkozyste au ministère de l'Intérieur qui va rappeler la politique du chiffre, qui va généraliser le truc de l'amende à 200 balles pour les fumeurs de bédo qui sont jamais fait péter. En fait, bon, tout ça, c'est encore des coups de com' sécuritaires, quoi. Mais du coup, l'idée, c'est que lui, il fait pareil. Il renverse totalement le débat qu'on a depuis 2 ans et tout d'un coup on n'en parle plus, quoi. Tout d'un coup c'est la police qui est maltraitée et la police qui répondrait pas assez, et on nous ressort la même merde des quartiers où les keufs peuvent pas aller. Juste voilà, on voulait en parler la semaine dernière, il y a quand même le 20 août, il y a Darmanin qui vient à Ivry, qui sort ses conneries de maintenant ici les dealers ils vont plus dormir ou je sais pas quoi là. Donc il fait son coup de com' médiatique et en fait la consigne elle est à nouveau redonnée aux keufs de se lâcher et de faire n'importe quoi dans le quartier, parce qu'il faut, il faut qu'il y ait un effet visible à l'annonce de Darmanin. Et donc en fait dans les jours qui suivent c'est plein de violences policières et des vidéos qui tournent de types qui se font démonter par des keufs, et donc en fait ça c'est typiquement c'est les consignes de Darmanin et le laisser, c'est un laisser faire et c'est un message très clair pour dire aux keufs qui quand même depuis 2 ans sont remontés en pression de partout à tous les niveaux, de dire en fait maintenant vous allez pouvoir aller encore plus loin, quoi. Tout est blanchi, enfin voilà.
Ouais. Puis je pense qu'il y a un double truc, mais c'est pareil avec ce que tu disais sur le coup de com', c'est qu'en fait ils font très bien le bon flic, mauvais flic, et donc ça marche très très bien, particulièrement dans les médias qui sont ravis de ce genre de clash à l'intérieur du gouvernement, voilà. Et nous, moi je pense que ce qui est important à voir là-dessus, c'est qu'en fait au-delà de même ce truc-là, la personnalité même de Dupond-Moretti, parce qu'il est sexiste, patriarche et tout, anti-écolo, ça a permis de focaliser l'attention sur lui en disant c'est un gars qui est pas bien et tout ça. Mais donc ça permet d'éloigner complètement toute la question des tribunaux, des prisons, Et donc en fait on va le entre guillemets lui faire son procès à ce niveau-là en disant c'est un sale type et tout ça. Mais on va jamais dire que c'est un sale type parce que il a pas libéré des gens actuellement, parce que. Et donc en fait il est arrivé en disant à Fren, je crois quand il sort, il dit moi je veux être le ministre des liberté. À l'arrivée, il n'y a pas plus de libération. Hein. Enfin, voilà, on va en parler pour Toulouse, pour Toulouse demain.
Ouais, c'est un beaucoup de com, alors. C'est dommage. Hein. C'est, ça fait de la peine. Hein.
Et donc, il y a plein de trucs. Il y a eu ce truc où, en fait, le gars, il s'est couché absolument sur tout, là, sur particulièrement la...
Ouais, mais c'est compliqué.
La rétention. Compliqué. Mais il n'a rien fait. Il s'est
sorti. Si tu viens au gouvernement et tu remues la merde, si tu remues trop la merde, tu te fais tirer dessus.
Mais le mec, il n'a même pas eu le temps de remuer la merde, parce que de toute façon, il est arrivé dans son cabinet, il a choisi son père. C'est-à-dire qu'on lui a placé, tu vois, c'est Macron qui a décidé, enfin Macron ou d'autres, hein, j'en sais rien. Ils lui ont.
Je pense qu'il y a eu un accord à l'amiable avec Macron. Il a dû avoir un petit rendez-vous dans un.
Mais donc, c'était une croquette.
Entre une entrée à 200 balles et un Château Lafitte 1959, tu vois. il a dû avoir un petit débat. Comment on fait? Comment on se met d'accord sur quoi? Tu fais quoi?
Ouais,
tu vois.
Mais je pense que c'est vraiment ça.
Et
ça
il
ça,
peut pas ça... être loin. Il peut pas faire ce qu'il veut. Tu sais, il a les mains liées, le mec. Tu vois.
Mais
moi, je suis même étonné. Je suis même étonné qu'il soit pas sorti plus tôt du gouvernement. Tu vois.
Ouais, mais
il n'ait pas dit non. Finalement, je peux pas faire ce que je veux comme une Nicolas Hulot.
Mais c'est pour ça qu'en vrai, c'est là où en fait ça reste le ministre des tribunaux et des prisons. C'est qu'en fait, il continue à laisser des gens se faire enfermer alors qu'il y a le Covid. Il continue à laisser les parloirs, on va en parler dans pas longtemps avec un coup de fil, qui sont complètement inacceptables. Il continue à pas filer de masque à l'intérieur de la détention. Il continue à pas y avoir d'activité à l'intérieur des tôles. Et il change rien. Mais en fait, il est même pas là pour changer. Sinon, il aurait pas accepté que tous ces... toutes les personnes soient nominées par quelqu'un d'autre, enfin toutes les personnes de son cabinet soient nommées par
quelqu'un d'autre. Franchement, Macron, il aurait dû nommer le Covid-19 au gouvernement. Ministre de la Justice, Covid-19. Le Covid-19 a fait plus pour les prisonniers que n'importe quel ministre de l'Intérieur depuis des années. Hey, ils ont vidé Fresnes, et je te jure, avant la fin, avant que je sorte, Fresnes, c'était vide. Il n'y avait plus aucun bruit dans les cours.
Bah, c'était
calme. J'ai pu être seul dans ma cellule. Ouais, il y avait plein de gens tout seuls. Il y avait plein de cellules vides. Et le Covid-19 a fait plus pour les prisonniers français en des années que des ministres de l'Intérieur depuis des années, quoi.
Ouais, en même temps, ça a mis aussi tout le monde dans la merde et l'État, il a laissé, tu vois, il en a profité pour sucrer les parloirs, pour faire qu'il y ait plein de jugements qui se passent sans les personnes, sans avocats.
Dommage collatéral.
Ouais, mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de tous les gens qui prennent des peines de prison pour rien. Bah, pendant le Covid, ça a été que ça, quoi.
Ouais, mais j'ai vu dans des reportages de télévision, des gens qui sont sortis, qui étaient en mandat de dépôt pour des meurtres.
Ouais, non, mais ça, c'est de la com. Hein. Franchement, en vrai, les chiffres, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de libération.
Moi,
en fait,
je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas vu les chiffres, je ne connais pas les chiffres.
Il y a surtout eu beaucoup de gens qui ne sont pas rentrés, en fait, parce qu'ils ont reporté les peines. Ça, c'est la première grosse étape. Et c'est ça, ça rentre beaucoup dans les chiffres de libération qu'ils ont annoncés. Et donc, c'est des reports d'incarcération, en gros, quoi.
D'accord.
Ouais, c'est des trucs où voilà. Et là, par exemple, ça repart. Enfin là, ils repartent à Toulouse. C'est 70 incarcérations par semaine.
Tu veux dire que là, les prisons françaises sont en train de se ré-remplir là ?
Ah bah ouais, bien sûr, ouais.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Mais Covid-19, t'es où ? Reviens. Non mais il revient.
mais donc, enfin voilà. En tout cas, il y a ce truc de. Enfin voilà, moi je pense que clairement il est pas ce ministre là. Il a permis de passer l'été alors que c'était hyper chaud dans les tôles quand même après le Covid, même si c'était devenu plus calme comme tu disais parce que les gens ils sont sortis et tout ça, il reste encore beaucoup de tensions sur les parloirs et tout, enfin, en tout cas les proches à l'extérieur et tout ça,
ça reste difficile,
ils se battent de ouf,
ça et pour un parloir, pour ça, les appeler, les joindre au téléphone,
mais ouais, et donc je pense que ça calme. Ça a calmé de fait de ouf à l'intérieur de la détention pendant 2-3 mois jusqu'à ce que les gens ils vont constater à l'intérieur qu'en fait Dupond-Moretti ou n'importe quel autre ministre des tribunaux et des prisons, et ben ça change rien. Voilà, et de fait pour l'instant ça change rien, voire même c'est pire parce que tout ce qu'il annonce c'est des trucs dégueulasses. Et la dernière, avant qu'on passe à autre chose, c'est quand même de dire que ce gars il a proposé pour la justice des mineurs, alors soi-disant dans un truc éducatif et tout, d'appeler l'armée ça c'est soi-disant le versant éducatif de la France, c'est d'aller appeler l'armée, voilà, donc tout le monde dit oh là là il est vraiment trop de gauche et tout ça blablabla, tout ça, mais que dalle, le mec il va appeler l'armée et pour tout le monde c'est déjà un truc scandaleux de juste pas enfermer des enfants et d'appeler l'armée. Enfin voilà, c'est juste n'importe quoi, c'est du foutage de gueule.
Soi-disant pour sauver ce qu'il y a à sauver. Hein. Enfin,
oui, c'est ça,
coup,
oui, c'est ça.
C'est vraiment un mépris de classe, un mépris des gens. Enfin, c'est genre hyper vénère. Et le truc, c'est parce qu'il y a aussi un gros coup de com' du gouvernement là-dessus. C'est de Moretti, c'était d'avoir lancé une commission d'enquête pour un prisonnier qui s'est suicidé ou qui est mort en prison, là, pendant l'été. Et juste pour dire qu'en fait, il y en a quand même beaucoup ces dernières années, des gens qui sont qualifiés de suicidés ou qui meurent en prison, qu'il n'y a jamais eu de commission d'enquête, que ces derniers temps, il y a des gens qui sont morts en prison, Moretti, on n'entend pas parler. Par contre, là, c'est un enseignant, ça a fait le buzz médiatique. Et du coup, comme tu disais, hein, dès qu'il y a des médias, il y a Dupond-Moretti, de toute façon, qui réplique, quoi. Et donc là, il arrive, il lance sa commission d'enquête, il dit, soi-disant, les gens, c'est des humains à l'intérieur, et qu'il a de la peine, quoi. Et en vrai, c'est un truc qui est hyper chaud, parce que, par contre, quand c'est quelqu'un qui n'est pas enseignant, qui n'a pas 69 ans, etc., et ben, la personne est totalement invisibilisée, il n'y a pas de commission d'enquête. Et juste pour rappel aussi, il y a quand même beaucoup de suicides qui sont déclarés au mitard. On en reparlera plus la semaine prochaine. Mais que la paix, elle qualifie beaucoup de, enfin voilà, des gens que les matons tuent en suicide, quoi. Et voilà.
Non, je disais juste que je voulais juste rajouter que en fait, quand tu commets un délit, c'est comme si en fait, t'avais plus aucun droit. C'est comme si on te retirait tous tes droits. T'es même plus un humain, quoi. T'es même plus un être humain. T'es plus rien, t'es un chien de la casse, t'es un chien du chenil, quoi. On fait ce qu'on veut de toi, t'as plus de parole, t'as plus de.
Ouais, tu peux plus rien. Enfin,
t'as
tout ce qu'on
dignité,
dit, c'est les matons,
on fait. Tu fermes ta gueule, t'as fait une bêtise, bah ferme ta gueule maintenant, t'es en prison, ferme ta gueule, c'est tout. C'est le seul droit qu'on te donne, c'est de fermer ta gueule.
Bah, nous, en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour donner la parole aux gens à qui on l'apprend et on l'interdit. On va passer un petit coup de musique et puis donc on va recevoir un coup de fil d'un avocat à Toulouse. À tout de suite.
Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, et si ce qu'on dit qu'on pense, notre absence, c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, les mots vrais traversent le temps mais pas les mauvais. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, et si ce qu'on dit qu'on pense, notre absence, c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, les mots vrais.
C'est mon flow qui coule sur les deux rives, la gauche, la droite, j'ai pas. Place l'upercute au plexus, l'adversaire se carapate. La masse de mon poing lyrical pèse lourd sur ta face. Vu la pression que je mets dans mes rimes chaque jour qui passe, normal, mes injections verbales imprègnent ton mental. Souvent fatal, tellement de victimes que mon style est légal, sans égal. Quand je m'étale, hurlant sur l'instru, ne connais-tu pas la légende, un coup de langue je tue. Sur le code qui leur chaud toujours plus qu'il ne t'en faut. E-A-S-T dans le mix, ouais. D'un coup de croc, je mets les points sur les i. Le fait funky quand l'envie m'en prend, tu joues les grands, mais en fait, t'es qu'un petit, il paraît que si ou ça, on dit ce qu'on veut, gars. Mon attitude reste la même, faire le plus de dégâts parmi la population de faux qui check les micros pour brancher des nymphos. Comportement idiot, en garde, les projectiles viennent tout droit du sous-sol. Je vole de mes propres ailes en tête, je caracole sur mes guibolles. Je tiens comme un roc, tiens-toi le pourdi. Autour de l'heure du crime, ma rime pervertit les esprits. En garde,
je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, et si ce qu'on dit qu'on pense, notre absence, c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, les mots vrais traversent le temps, mais pas les mauvais.
En garde,
je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, et si ce qu'on dit qu'on pense, notre absence, c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, les mots vrais. Dès que je t'entends, ce t'en dirai pas tant, un truc épatant, s'empare de moi, c'est dur, ne dure qu'un instant. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, et si ce qu'on dit qu'on pense, notre absence, c'est ça la récompense. C'est pas que des vers en place, un frère, un fils ou l'homme qu'elle aime, un type que je kiffe, manque sa présence quand même. Jamais je m'étais dit ça avant, mais le temps passe et laisse des sales traces, pas besoin d'être savant pour savoir qu'ici c'est juste un passage, qu'on soit un ange ou passage, un type qui a vécu ou un gosse en bas âge, mauvais présage, entourage, déconvenu, combien autour de nous sont déjà partis, jamais revenus. Main dans les poches, marche sur une avenue moche. La tête hoche, pense à mes proches et ça casse la fête. Mais juste un instant, le constant existant. Je résiste en appliquant tout ce qui consiste en faire que mes textes soient des plus consistants. Persistant, difficile ton question. Pense quand je balance ça dans la sono, les mots vrais traversent le temps mais pas les mauvais. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, et si ce qu'on dit qu'on pense, notre absence, c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, les mots vrais traversent le temps mais pas les mauvais. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, et si ce qu'on dit qu'on pense, notre absence, c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, les mots vrais. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, et si ce qu'on dit qu'on pense, notre absence.
Vous êtes de retour dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Et donc pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10, mais là pour le moment il n'y a pas besoin. On va faire rapide, on a un avocat de Toulouse donc, pour parler un peu des tests. Et,
Allô ?
Oui.
Ouais, tu nous entends ?
Oui, je vous entends.
Bah ouais, on voulait revenir avec toi là parce que donc il y a eu une décision administrative qui a été prise par le tribunal de tester de manière volontaire, voilà ce qui est très important à l'intérieur de la prison. Donc en fait vous avez déposé une plainte fin août.
Oui, en fait ce qui s'est passé c'est que avec une des consoeurs avec laquelle je travaille, Justine Russel, on s'est rendu compte dernière semaine d'août que en fait, les détenus de la maison d'arrêt de Seix ne disposaient pas de masques. Alors, on ne pouvait pas s'en rendre compte immédiatement, parce que quand nous, on va les voir au parloir avocat, ils en ont un. Quand ils ont le parloir famille, normalement, ils en ont un. Ce qui s'est passé, c'est que ma consoeur a été assistée en visio son client à la maison d'arrêt lors d'un interrogatoire devant un juge d'instruction. Et là, elle se rend compte qu'il n'a pas de masque. Alors, elle demande à ce que le surveillant lui en donne. Et là, on lui répond, bah, en fait, c'est pas prévu pour les détenus. Ah bon. Alors, finalement, le surveillant, on a puisé un de sa réserve personnelle, et puis quand elle nous dit ça, on décide d'aller voir tous nos clients de la maison d'arrêt, et puis on leur demande, mais en fait, nous, on vous voit toujours avec des masques, mais c'est quand que vous en avez ? Ah bah, juste au parloir famille, juste au parloir avocat. En zone d'attente, en cours de promenade, en activité sportive et parfois même au travail ou à l'école, ben non, en fait, il n'y a pas de masque. Alors, avant toute chose, on a adressé deux télécopies à la direction de la maison d'arrêt de Safe qui nous expliquent un petit peu leur point de vue sur la question. Pas de réponse. C'est dans ces conditions qu'on a décidé de saisir le tribunal administratif avec du coup les gens qu'on défend et qui sont incarcérés à Safe en référé pour qu'ils se prononcent sur cette impossibilité pour eux d'avoir accès au masque et sur le fait que par ailleurs la dernière fois qu'on avait été au parloir on avait demandé quelqu'un, il n'a pas pu nous être amené et on nous a dit en fait bah, il y a le Covid tout simplement. Donc on sait qu'en fait, au sein de la maison d'arrêt, il y a des cas, il y a au moins 4 ou 5 suspicions, là, et que pour autant, ils n'ont pas de masque. D'autant plus choquant quand on sait que dans certaines maisons d'arrêt, alors c'est pas le cas à Safe, mais ils confectionnent des masques. Bon, et puis renseignement pris, on s'est rendu compte que c'est bah, le cas dans pratiquement la totalité des maisons d'arrêt françaises. Alors voilà.
Bah ouais.
Voilà comment ça s'est passé.
Et donc, en fait, ouais, la décision, elle va être... Donc, déjà, il y a un truc qui est quand même vraiment hyper important, c'est que quand vous avez déposé cette plainte, vous avez bien expliqué qu'il fallait que ça soit une possibilité de test volontaire. C'était que l'administration pénitentiaire donne la possibilité aux prisonniers de se faire tester s'ils le souhaitaient.
Oui, oui, et l'ordonnance du juge administratif est très claire sur ce point.
Juste pour rappeler, l'ordonnance, c'est la décision.
À mettre à disposition... Il n'est en aucun cas question d'obliger les détenus à porter un masque. C'est seuls ceux qui désirent en avoir un, qu'ils aient la possibilité d'en avoir un. Ceux qui veulent être testés, qu'ils aient la possibilité d'être testés. C'est ça qu'on demande et cette base du volontariat a été retenue par le juge administratif. Alors, la situation, malheureusement, est-ce que c'était couru d'avance, je ne sais pas, a peu évolué. L'ordonnance, elle date du 4 septembre. Aujourd'hui, 11 septembre, ce matin, j'étais à la maison d'arrêt. J'ai demandé, donc je défends, si l'administration s'était conformée au jugement. Pour le moment, rien n'est fait.
Ouais. Et il faut rappeler, parce que là, ils sont encore dans le délai où l'administration pénitentiaire peut faire appel.
Oui.
Si je ne me trompe pas. Mais par contre, même s'ils font appel, ce n'est pas suspensif de la décision. Donc ça veut dire que la décision reste à appliquer.
Appel ou pas appel, moi je veux bien entendre tout un tas de choses et qu'ils aient besoin d'un jour, deux jours pour mettre à disposition des masques, peut-être même un peu plus pour faire des dépistages volontaires. Enfin là, ça fait quand même une semaine. C'est toujours un peu irritant de voir que l'administration pénitentiaire qui dépend, hein, c'est la même administration, enfin c'est le même ministère qui dépend directement du ministère de la Justice, ne respecte pas elle-même une décision de justice. Bon,
Mais c'est souvent classique.
Malheureusement.
Malheureusement, on n'apprend rien. Mais je pense que c'est important de revenir quand même. Enfin, que cette décision est quand même importante parce que donc là, vous avez fait ça avec le SAF. Il y a la 3D, pareil, qui avait fait. On avait eu Mathieu Quinquis aussi au téléphone, qui était un avocat de la 3D. Enfin, il y avait pas mal d'offensives qui ont été faites, souvent coordonnées, hein, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et c'est la première fois qu'il y a une décision quasi pleinement positif, quoi.
Oui, alors, mais ça s'explique aussi parce que la situation évolue quand même assez rapidement. Et quand il y a eu ces premières actions, on était en plein confinement. Ouais. Ça a donné lieu à deux décisions du Conseil d'État, hein, 8 avril, je crois, l'autre du 7 mai. Donc, il était demandé, entre autres choses, hein, de mettre à disposition des masques pour les détenus, etc. Seulement, le Conseil d'État considérait qu'eu égard à la politique nationale au niveau des masques, parce que alors, en fait, il n'y avait pas de masques, et on nous disait, on ne sait pas trop si c'est utile, etc., etc. Bon, surtout, on n'avait pas de masques, il y avait une situation de pénurie. Bon, sauf que la fin août, début septembre, la Haute-Garonne, Safe se situe en Haute-Garonne, est classée en zone rouge. À Toulouse, on a l'obligation de porter le masque dans la rue. Tout le monde a des masques. Donc, si vous voulez, cette restriction que posait le Conseil d'État ne se justifiait plus. Et c'est, je pense, le raisonnement du juge administratif, ce qui peut-être n'était pas possible en avril ou mai, là, elle est totalement, c'est la raison pour laquelle si on a eu plein de causes.
Ouais, c'est voilà. Moi, ce qui m'inquiète, je t'avoue que j'ai pas pensé là, mais c'est en écoutant la radio là, parce que là maintenant ils viennent de dire que les tests, ça serait prioritaire pour les soignants, et voilà. Et je serais pas surpris qu'ils arrivent, qu'ils fassent appel là-dessus maintenant, et en disant bah tout compte fait, les consignes maintenant elles ont changé parce qu'on a plus assez de tests, et voilà. Enfin, j'y pense là en même temps qu'on discute là.
Écoute.
Mais on verra.
On aura une, de toute façon, hein, je crois avoir calculé, parce que le délai n'a pas commencé à courir exactement à partir du 4 septembre, mais un peu plus tard. Et puis, il y a eu un petit peu d'agitation, ça a été un petit peu relayé médiatiquement. La chancellerie doit se poser la question. Je pense qu'ils enverraient quand même un signal un peu curieux. Bon, j'imagine que vous avez évoqué ça. Précédemment, mais on a un garde des Sceaux qui a voulu acter sa première visite après sa nomination à Fresnes. On a un garde des Sceaux qui nous a dit ma carrière d'avocat m'a amené à être en contact des prévenus, et je suis tout à fait attentif et choqué par leurs conditions de détention. Il n'y a pas de raison de penser que a priori ce soit faux. En revanche, depuis qu'il est ministre, là, il va falloir quand même démontrer qu'il a la volonté et le pouvoir de faire quelque chose pour les victimes de France.
Ouais, bah ça, on est longuement revenu là-dessus et sur pourquoi nous on n'a pas trop d'espoir là-dessus. Et bah, merci beaucoup en tout cas pour.
Merci à vous.
Et donc ouais, non, peut-être juste sur la suite quand même qui va être donnée, c'est que vous espérez quand même que ça va marcher et qu'après derrière ça puisse être repris au niveau local dans d'autres établissements pour que ça puisse.
Moi, ce qu'on veut prioritairement, c'est que la maison d'arrêt, l'administration pénitentiaire applique la décision de justice, ouais. Et que sans attendre d'être condamnée dans les autres juridictions de France, elle décide d'elle-même d'appliquer ces mesures-là dans les autres maisons d'arrêt. Si ça ne devait pas être le cas, il faut évidemment que, moi je cite les détenus, les avocats, à agir devant le juge administratif pour faire plier sur ce point.
Ouais. Bah oui, c'est important, et donc c'est pour ça qu'il faut relayer aussi cette décision au maximum. Et puis, en tout cas, n'hésite pas à nous tenir au courant de l'avancée du truc, si c'est réellement mis en application et tout ça, et s'il y a appel et tout, qu'on suive quand même, parce que c'est important. Et il ne faut pas oublier non plus, parce que c'est ce que tu me disais aussi au téléphone tout à l'heure, c'est que là, actuellement, ils commencent à réincarcérer de ouf, et que la seule solution face au Covid, c'est de libérer des gens. Voilà. Et donc, on rappelle que c'est quand même ça le plus important. Et de toute façon, voilà. Enfin, on sait que vous.
Évidemment d'accord avec ça, bien sûr.
Donc,
pas de problème. Je tiens à informer.
C'est cool. Et merci. Bonne soirée. Et puis, tiens-nous au courant alors.
Très bien. Au revoir.
Au revoir.
Ouais. Et du coup, on va passer un tout petit peu de musique. On va finir les chansons là qu'on a coupées depuis le début de l'émission. Et on revient avec sur la question du centre de rétention de Marseille un peu plus longuement.
Saint-Ouen ou avec une go en train de marquer un point. Moi j'ai les murs de mon monde à tenir, et comme je ne vais pas rajeunir, comprends que j'envisage mon avenir. Toute ma vie tient dans mon crâne et deux sacs de sport, pas plus. Pourtant j'ai des bagages et même un bac plus. On me demande si ça va et je réponds oui, car j'ai la fierté des braves d'avoir su construire avec des gravats. Pour fuir la routine il aurait pu y avoir le travail, mais pour ce qu'on y gagne mieux vaut être riche et polygame. Rien ne m'appartient, même pas mon disque, non, ni les mètres carrés que j'habite dans l'arrondissement. Je suis riche d'autre chose et peut-être bientôt ex-pauvre, car riche d'une prose qui explose. Je suis bien dans mon coin avec mon joint, mon stylo et mon flash. Rien ne nous appartient ici. Mon emploi du temps est mon seul emploi. Rien ne nous appartient ici. Tout ce que je possède est en moi. Rien ne nous appartient ici. Même pas les quelques billets qu'on fait dans le mois. Rien ne nous appartient ici.
Rien ne nous appartient. tiens.
Tout ce que je possède est en moi.
Je n'ai reçu pour avance que celle de femme superbe. On veut mener la grande vie, mais y'a des illusions qu'on a dû perdre. Donc à défaut que ce soit aisément, on cherche à vivre intensément. On n'attend pas de toucher le fond pour remuer ses membres, car tous les scénarios sont possibles. Moi j'avance doucement, mais pas parce que mes chevilles ont grossi. Je suis dans mes dépenses au moindre frais, ouais. Comme plein de refrais, ouais. Je bave devant les agences de voyage et les points de retrait, avant que ne défile mon générique de fin et les noms de ceux qui ont un rôle de loin ou de près. Je sais qu'ailleurs y'a pire que les coins où je crèche, mais que partout c'est dead quand tu n'as rien ou presque. Mais que tu possèdes un building ou que tu te battes pour sortir de l'ombre, il ne reste sur nos tombes qu'un nom et deux nombres. Les modes de vie qu'abrite ce monde sont sans rapport. La liberté, l'égalité, c'est dans la mort.
Rien ne nous appartient ici,
rien ne nous appartient.
Mon emploi du temps est mon seul emploi. Rien ne nous appartient ici,
rien ne nous appartient.
Tout ce que je possède est en moi. Rien ne nous appartient ici,
rien ne nous appartient.
Même pas les quelques billets qu'on fait dans le mois. Rien ne nous appartient ici,
rien ne nous appartient.
Tout ce que je possède est en moi.
Mais est-ce qu'il ne nous reste que la loterie, les sports équestres, la Ligue 1 ou le business pour remplir ses caisses? On a une mentalité si culturellement urbaine qu'on oublie que les vraies richesses sont naturelles ou humaines. Normal, on s'y perd, avoir autant d'exemples d'opulence obscène. Au moins je sais que ce n'est pas pour mon blé que mes proches m'aiment. Nos vies ne sont pas telles qu'on les voyait. À la longue, on n'y comprend plus rien, comme si on nous parlait sans les voyelles. Rien ne m'appartient, mais rien n'est plus cher à mes yeux que les gens que j'aime, ils sont ceux que j'ai de plus précieux. Ici on perd souvent de vue ce qui est important, la famille, l'accomplissement de soi, être bien portant. Mais on le sait, le fric fait la différence. Vraiment, faites-en, vivant sainement et en profitant pleinement.
Rien ne nous appartient ici. Mon emploi du temps est mon seul emploi. Rien ne nous appartient ici. Tout ce que je possède est en moi. Rien ne nous appartient ici. Même pas les quelques billets qu'on fait dans le mois. Rien ne nous appartient ici.
Rien ne nous appartient.
Tout ce que je possède est en moi.
Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Tout ce que je possède est en moi. Tout ce que je possède est en moi. Tout ce que je possède est en moi.
Vous êtes de retour dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Voilà, pour une fois, il y a eu une musique complète, puisqu'il y a un petit retard pour la... Non, elle n'était pas complète.
Si, si, elle était complète, mais je te disais juste de ne pas toucher le micro.
Ah, débat. Du coup, voilà, et donc on est en attente d'un appel là, d'un prisonnier au CRA de Marseille. Juste pour peut-être... introduire vite fait la situation. En gros, on en a parlé vite fait la semaine dernière, mais il y a eu des luttes pendant tout l'été, bon, dans pas mal de centres de rétention, et particulièrement dans le sud de la France, où les prisonniers étaient pas mal en lien en fait, d'un CRA à l'autre. Donc c'est parti de Marseille, Nîmes, Toulouse, voilà, voire jusqu'à Nice, je crois, à un moment. Et du coup, ces luttes-là, elles ont duré longtemps. Il y a eu des grèves de la faim, il y a eu des blocages de promenade, il y a eu tout un tas de tentatives d'action collective. Et donc là, on voulait revenir un peu plus sur ce qui s'est passé pendant, avec donc un prisonnier de Marseille. En attendant qu'il appelle, je vais parler un peu de ce que nous on sait. Du coup, la grève de la faim, quand elle commence, ça s'étend donc, comme je disais, de Marseille à Nîmes, à Toulouse. Etc. Et du coup, il y a différents communiqués qui sortent. On en a lu un la semaine dernière. Voilà. Et depuis, en fait, il y a plusieurs frontières qui ont rouvertes. Et c'est là aussi c'est aussi ça dont on va parler là aujourd'hui. Et notamment la frontière avec la Tunisie. Et donc, l'État français souhaite expulser pas mal de Tunisiens en ce moment qui sont enfermés dans les centres. Pardon, dans les centres du Sud. Et il y aurait peut-être des départs en ferry qui serait prévu. On va revenir du coup là-dessus aussi avec le copain et on va vous lire un appel un peu plus tard public. Mais là, du coup, on va commencer par parler un peu de la situation en ce moment au CRA de Marseille. Allô ?
Allô ?
Ouais, tu m'entends ?
Oui, je t'entends.
Yes. Ouais, du coup, j'ai vite fait introduire pour dire qu'il y avait eu des luttes donc depuis deux mois, raconter un peu que tu vois, ça avait touché pas mal de CRA, notamment dans le Sud, que vous étiez en lien, qu'il y avait pas mal de prisonniers dans ces CRA. des gens pardon qui sortent de prison. Et
je t'entends pas trop bien, Alex. Je t'entends pas trop bien.
Allô. Vas-y.
Ouais, et du coup, donc, il y a beaucoup de gens qui sortent de prison qui ont été mis dans ces CRA. Et là, ces derniers jours, donc, la situation elle s'est un peu tendue à nouveau à Marseille, si je dis pas de conneries, parce qu'il y a des rumeurs, voire plus que des rumeurs d'expulsion possible de Tunisiens.
C'est pas des rumeurs, c'est des affirmations, même. Des confirmations même.
Ok, tu crois que tu peux parler plus fort dans le téléphone ?
C'est pas des rumeurs, c'est des confirmations.
Ok.
Là, ils sont en train de réunir, d'amener les trois quarts des gens qui sont ici, la plupart des Tunisiens. Ils viennent de Nîmes, de Toulouse, de Paris, de Nice, de un peu de partout, quoi.
Et du coup, il y aurait des expulsions possibles à partir de... Enfin, là, ça parle de quand ?
Bah, peut-être. Déjà, aujourd'hui, il y a eu un vol. Il y a eu un Tunisien qui a été sorti de prison et qui a été mis dans l'avion, mais qui a refusé, il vient d'arriver, là. Il a refusé son expulsion. Enfin, il a refusé, ben, il n'est pas... Voilà. Et là, normalement, il y a un bateau pour demain, il y a un bateau pour le 16, il y a un bateau pour le 19, il y a un bateau pour le 21.
Ok, et tu sais ce que...
Voilà, et comme la seule frontière qui est ouverte du Maghreb... C'est la Tunisie, parce que l'Algérie est fermée, le Maroc ne répond pas et n'accepte pas. Ça fait que bon, ben, c'est à la chasse aux sorcières pour les Tunisiens maintenant.
Ouais, et tu sais comment ça se passe, les expulsions en ferry ? Il y a moyen de les refuser la première fois au moins ?
Ben, je pense, la première fois, tu penses que tu peux refuser, mais la deuxième fois, t'es scotché.
Ok, ouais. Fois,
tu te mets la camisole comme si, voilà quoi.
Ouais, et le truc c'est que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Déjà, c'est compliqué de résister à une expulsion, mais c'est encore plus le cas quand c'est en ferry, puisque bloquer un avion, c'est, enfin, que les passagers soient solidaires, c'est possible. Mais en ferry, en fait, on peut mettre n'importe où. En fait. Quoi ?
Je t'entends pas très bien. Je sais pas si toi tu m'entends, mais moi je t'entends pas très bien.
Moi, t'entends très bien. Toi, tu m'entends ?
Tu m'entends ?
Est-ce que tu m'entends là ?
Ouais, je t'entends pas très bien. Je t'entends mais doucement.
On peut pas faire beaucoup mieux. Tu peux pas monter le son de ton téléphone ?
Je suis à fond.
Ah merde. Bah, parce que là, nous, on est à fond aussi sur la console.
Ouais, y a pas de problème.
Désolé.
J'entends doucement.
Ok. Eh ben, on va juste lire là, vite fait, un texte de personnes qui sont dehors et qui veulent s'organiser contre les expulsions dont tu es en train de parler. Et on revient un peu avec toi sur comment ça se passe, ok ?
Ok.
Ok. Donc je vous lis le petit communiqué.
Alerte expulsion des grévistes de la faim du centre de rétention du Canet Marseille, 10 septembre 2020. Depuis plusieurs semaines, les détenus du centre de rétention de Marseille et d'autres villes, Rennes, Lyon, Ménilmontant, sont en grève de la faim pour obtenir leur libération. Beaucoup sont enfermés jusqu'à 90 jours, le maximum légal, alors même que l'expulsion est rendue impossible par la fermeture des frontières et l'annulation des vols. À Marseille, les personnes enfermées craignent la propagation du Covid-19. Dans des conditions sanitaires désastreuses, et alors que 5 cas ont déjà été diagnostiqués dans la police aux frontières qui contrôle le centre. L'État a décidé de casser ce mouvement qui prend de l'ampleur et qui commence à être relayé médiatiquement, mais aussi par la multiplication de la mobilisation de soutien en cette rentrée, 3 manifestations à Marseille. Il a décidé d'une expulsion collective imminente du CRA de Marseille vers la Tunisie par bateau sur la ligne Marseille-Tunis. Opération opérée par la Corsica Linea et la compagnie tunisienne de navigation CTN. Cette semaine, le consul de Tunisie a procédé à l'identification d'une quinzaine de retenus tunisiens au Canet, auxquels pourraient s'ajouter d'autres retenus tunisiens de Nîmes, ce qui signifie la mise en œuvre imminente de la procédure d'expulsion. Merci de tenir prêt à agir pour empêcher cette expulsion et soutenir les personnes qui résistent à l'intérieur des murs. Vous pouvez aussi exiger la libération des retenus et dénoncer cette politique de terreur auprès de la représentante de l'État français à Marseille et ses collaborations dans les compagnies maritimes. Préfecture de Marseille, Juliette Trignat au secrétariat général, Madame Assidon, la préfecture délégée des chances.
Ouais, et là, on va vous donner deux numéros à appeler, puisqu'il y a des appels donc, à harceler la PAF de Marseille et les compagnies. On va juste en donner deux. Voilà, mais du coup, tous les gens qui sont intéressés, il y aura toutes les informations sur le site. Et voilà, donc il y a appel à se mobiliser. Il y aura des infos dans les prochains jours aussi sur comment se mobiliser concrètement pour les gens qui sont à Marseille.
Ok, donc la police aux frontières, 04 91 53 60 90.
Je le redis. 04 91 53 60 90. Les compagnies, il y a la compagnie tunisienne de navigation, c'est 04 91 91 55 71.
Voilà, et du coup, soyons un maximum à exiger en fait que ces compagnies-là, elles expulsent pas, elles participent pas à la machine à expulser, et que la préfecture de Marseille se ravise vite fait, quoi, et espère pas ça, quoi. Parce que donc ces expulsions collectives, c'est une pratique quand même assez courante, notamment vers la Roumanie ou des pays européens. Par contre, de ce que je sais, c'est quand même beaucoup moins le cas par ferry. Il y a des expulsions par ferry depuis Marseille, depuis toujours, mais c'est moins le cas, quoi, des expulsions autant groupées. Du coup, là, il y a vraiment des appels à bouger dehors pour se montrer solidaire, quoi. Et je me demandais, tu nous entends là ?
Ouais, je vous entends.
Ok. Ouais, moi, je me demandais, est-ce que tu crois que tu peux nous raconter un peu comment c'est les parloirs à Marseille ?
Les parloirs du CRA ou.
Du CRA.
Ben, c'est une petite salle, avec une petite séparation en plexiglas qu'ils ont fait là en plexiglas. Voilà quoi, mais bon.
Ok, parce que.
Le plus grave dans tout ça, c'est que c'est carrément des agents de la PAF qui ont été testés positifs. C'est ça qui reste le contexte le plus grave. En sachant qu'à la réouverture du CRA de Marseille, pas tous les agents n'ont pas été testés. Et normalement, après une pandémie comme il s'est passé, je pense que la rouverture du CRA, ils auraient testé tous les agents. Mais bon, aux agents, eux-mêmes, on leur demande de se tester de leurs propres moyens et de leur temps libre. Et voilà, vous imaginez vous imaginez la machine que ça a fait.
Et après,
les mesures de sécurité, on est entre nous, on n'a pas de masque, les retenus quand ils sont entre eux, il n'y a pas de masque, il n'y a que quand ils prennent les repas en haut, les repas ils sont à trois sur une table, je me demande comment ça peut être respecté, 1 mètre de distance.
Et là pour l'expulsion, en fait, est-ce qu'ils vous ont testé avant ?
Ceux qui ont voulu être testés ont été testés, c'est normal, on n'a pas envie de mal jouer, être malade. Après il y a beaucoup de gens qui ont refusé de se tester, ça fait qu'ils n'ont même pas séparé les gens qui ne veulent pas être testés avec les gens qui ont été testés. Mais là, ils n'ont pas séparé non plus les gens qui sortent de prison avec les gens qui viennent de dehors. On est tous mélangés dans les mêmes peignes.
Ouais, et puis voilà, ils continuent de ramener des gens de dehors. La PAF continue de sortir tous les jours pour rentrer chez eux.
Il y a des gens de prison, il y a des gens qui ramènent de dehors. Il y a des gens qui attrapent dans le train, il y a des gens qui attrapent à la frontière italienne, il y a des gens. Ils les ramènent tous ici, ils nous mélangent tous entre nous. Et voilà quoi.
Ouais, et moi en fait, si je te posais la question sur le parloir là, déjà je voulais savoir. Je te posais la question parce que quand on en discutait tout à l'heure, tu me parlais de la sécu privée qu'il y avait là-bas.
La sécurité là-bas.
La sécurité privée qui est en train de travailler avec la PAF là à l'accueil.
Ils ont mis un système là aujourd'hui, parce que par rapport à des gens qui avaient des visites, c'était des sécurité privée qui faisait l'entrée des familles. La vérification des affaires, la vérification de la nourriture qui ramenait, c'était plus des agents de la PAF.
Ouais, et ça en fait c'est la prison pour sans-papiers de Marseille, là où t'es, en fait c'est un labo de l'État français pour commencer à privatiser la gestion de ces espaces, et du coup c'est la société Honnête, donc qui fait aussi dans le nettoyage, notamment de CRA d'ailleurs, qui a remporté ça, et là donc c'est des salariés du privé qui vont faire l'accueil aux familles, qui vont s'occuper des fouilles, etc., et des parloirs, quoi. Voilà. Et après ça va être généralisé à toutes les prisons pour sans-papiers, quoi.
Ouais, c'est la même chose que ce qu'il y a dans les tôles actuellement, quoi, avec ça et tout ça, quoi.
Dans les tôles, non, la plupart du temps c'est les surveillants qui font, c'est souvent pénitentiaire, hein. C'est jamais été des sécurités privées qui fait la rentrée des salades ou l'accueil des familles. Pour l'instant, hein, j'ai pas entendu que c'est dans les prisons, c'est comme ça.
Ouais, il y a des prisons, c'est le cas maintenant. Et en fait, pareil, tu vois, c'est des labos qui vont permettre à terme de généraliser, parce que l'idée, c'est de privatiser en fait un maximum. Tu vois, comme ils ont privatisé les keufs dehors là, avec toute leur milice armée, maintenant ils veulent privatiser aussi l'enfermement, quoi. C'est un marché, tu vois, c'est du bif pour eux un peu. Du coup, toi, ça commence à faire un peu longtemps, non, là, que t'es à Marseille, que t'es au CRA, pardon.
Depuis le 18 juillet, je suis au CRA de Marseille. En fait, moi, c'est un peu compliqué. J'étais au CRA de Toulouse le 2 juin jusqu'au 2 juillet.
Tu sortais de prison ?
J'ai été libéré par la GLD, sans assignation à résidence, parce que mon passeport n'est plus valide. Mais une heure après ma sortie du CRA de Toulouse, je n'étais pas au courant et je n'ai pas été notifié. J'ai eu un arrêté d'assignation en résidence par la préfecture de l'Alpes-Maritimes. Je n'ai jamais signé cette notification, je n'étais même pas au courant. Deux semaines après, on m'appelle, le service de police m'appelle, me demande de venir les voir, je viens les voir. On me dit que je n'ai pas respecté l'assignation. J'aurais dit que je n'étais jamais au courant de cette assignation et je n'ai jamais été notifié. Sinon, je ne vois pas pourquoi, si je ne respecte pas l'assignation, pourquoi je viendrais de moi-même vous voir à vos services, quoi.
Ouais, et du coup, ils en ont profité pour te...
Du coup, ils en ont profité pour me mettre au CRA depuis le 17 juillet. Je suis là depuis le 17 juillet. Depuis le 18 juillet, j'ai entamé une grappe de la faim. Je suis jamais monté au réfectoire, ni le matin, ni le midi, ni le soir. J'ai fait trois malaises. Au bout du troisième malaise, on n'a pas voulu m'envoyer à l'hôpital. C'est là où j'ai pris un peu peur. J'ai commencé à me nourrir un petit peu le soir pour pas mourir, parce que je pense qu'ils s'en foutent.
Ouais, ils sont capables de te laisser crever. Hein. C'est un délire.
Voilà. Après, voilà, comme je dis, mon histoire est un peu complexe. On est quoi, 3-4 ou 4 ou 5 personnes de même âge que moi, qui ont plus de 20 ans en France, moi j'en ai 40. Il y a des gens que, voilà, comme moi aussi, qui sont leur père, leur mère, leur frère, leur soeur qui sont ici.
Ouais, puis tu sors de pas mal d'années en prison, donc tu sais aussi comment lutter face à une administration, quoi. Enfin, tu vois, j'imagine t'as des billes là-dedans, quoi.
Pas compris, excuse-moi.
Vu que tu sors de quelques années aussi.
Je sors de quelques années de prison, bien sûr.
Ouais, du coup, tu vois comment c'est le rapport de force face à des surveillants, quoi, des matons, qu'ils soient keufs ou de la paix, quoi. Tu vois.
Bah, encore en prison, je vais être franc avec toi. Malgré tout, ils ramènent beaucoup de gens pour les papiers, c'est ça qui rend fou quand même, quand tu vois des gens qui arrivent pour les papiers par rapport à une interdiction, qu'ils ont pris des 18 mois, des 1 an, des 2 ans de prison pour des interdictions ou pour des papiers. Tu te poses un peu la question de ce qui se passe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont pas commis de délit, en fait. Ils ont des papiers, ils nous ont pas respecté de pas avoir quitté la France, en fait, tu veux dire?
Ouais, et ça se passe pas mal dans le sud, notamment, je crois.
Apprendre plus que bientôt, un trafiquant ou un voleur, ou j'en sais rien, mais bon.
De toute façon, nous, on n'est pas là pour faire la justice ou l'échelle des peines, mais tu vois, le truc, c'est de se dire que de plus en plus, les sans-papiers sont criminalisés, et qu'on peut les envoyer de plus en plus, qu'ils soient sans-papiers ou étrangers, en fait, avec un titre de séjour. Maintenant, dès que tu fais quelque chose, dès que l'État t'accuse de faire quoi on peut t'enlever ton titre de séjour, tu vois.
Mais en juste... fait, c'est le problème. Ouais. Aujourd'hui, une carte de séjour ne vaut plus rien, en fait.
Exactement.
C'est ça le truc, c'est au moindre délit.
Ils te la retirent.
Comme tu dis, le pire, c'est qu'ils font pas de distinction sur les dossiers. Le mec, il peut avoir 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, tant qu'il a une carte de séjour, pour eux, c'est un étranger. Pour eux, c'est un étranger bientôt en situation régulière. Alors, c'est un truc de fou. Et pourtant, il avait une carte de séjour, il est en règle.
Jusqu'à ce que...
Mon cas à moi, il est spécial, mais je sais qu'il y a d'autres cas qui sont comme ça. Moi, je crois que je suis un des pires. Mes parents français, je suis là depuis 1980. Je veux dire, il n'y a pas pire, je pense. J'ai regardé, j'ai fait une statistique sur tous les CRA de France. Il n'y a pas beaucoup de cas comme moi.
Bah nous, on a eu beaucoup de gens. Enfin, tu vois, en tout cas, on sait que maintenant, ils enferment n'importe qui n'a pas réussi à obtenir la naturalisation, que faire sauter une carte, un titre de séjour, c'est hyper simple. Juste, moi, je voulais revenir un peu avec toi sur... donc toi, tu racontais que là, depuis le 18 juillet, tu as décidé de... excuse-moi. D'être en grève de la faim au CRA du Canet. En fait, depuis, il y a eu aussi tout un mouvement en août qui a dépassé le Canet, quoi, où il y avait des gens de Nîmes, de Toulouse et tout. Et je crois que tu peux raconter un peu comment ça s'est passé à ce moment-là.
À ce moment-là, des gens qui ils ont fait la grève de la faim. Et comme j'ai expliqué j'ai expliqué sur notre radio qu'il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de visite, qui ne peuvent pas avoir même pas un paquet de gâteaux et une bouteille d'eau, en fait, pour tenir, en fait, je veux dire. Après, t'as des gens qui ont fait des tentatives d'expulsion, t'as des gens qui ont avalé des coupons, t'as des gens qui ont avalé des piles, t'as des gens qui ont avalé des pièces, t'as des gens qui, voilà, quoi. T'as eu des tentatives de suicide avec le fil. Je veux dire, voilà, quoi. Et c'est pas pour autant que l'administration ou la préfecture réagit, ou même le CRA réagit, quoi.
Et Forum Réfugié?
Forum Réfugié, je pense que je ne sais pas s'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de pouvoir, en fait. Je me demande si leur association a du poids sur les décisions préfectorales ou sur les décisions administratives.
Et,
CRA, quoi.
Juste, Forum Réfugiés, c'est l'association qui va dans le CRA à Marseille, c'est ça?
C'est l'association qui va dans le CRA à Marseille, oui.
Ouais.
Et... Après, Forum Réfugiés, moi, ce que je pense, c'est que quand la préfecture, voilà, quoi, vous veut, eh ben, elle vous a, en fait, vous voyez ce que je veux dire?
Mm.
Voilà, c'est complexe.
Ouais, une fois que t'es pris dans le filet...
Si c'est pas médiatisé, et si la personne n'a vraiment pas de lien en France... n'a pas de famille, n'a pas de situation, n'a pas d'hébergement, je pense que sa cause est déjà perdue, en fait.
Bah même si elle a, hein, comme tu racontais, tu vois.
Hein?
J'ai dit même si elle a des liens ou un hébergement, maintenant...
De toute façon, mais aujourd'hui, même si elle a pratiquement tout, si c'est décidé pour lui, sa cause est déjà perdue. Là, le seul truc qu'il y a, c'est que, voilà, comme pour, par rapport à certains Tunisiens qui ont tant d'années en France, bah, la Tunisie ne les reconnaît pas. C'est un peu logique. Ils n'ont jamais vécu là-bas, ils n'ont jamais eu de carte d'identité tunisienne.
Ouais, ouais, non, mais je comprends.
Je veux dire, ils sont rentrés en règle, ils sont rentrés, ils sont pas rentrés illégalement en France. Voilà, pour certains ressortissants, je pense qu'ils ont un peu des complications, mais malgré tout, voilà, l'État français met la pression sur des petits pays comme ça, parce que, bon, voilà, parce que déjà, c'est le seul pays qui est ouvert. Où les frontières sont ouvertes.
Ouais, puis voilà. C'est sûr qu'il y a eu des pressions aussi diplomatiques, hein, que ça s'est pas passé comme ça pour que la Tunisie.
Des pressions sont faites sur des trucs, sur sur ce gouvernement-là qui je pense qu'il a du mal à refuser les laissez-passer, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bah c'est
ils ont pas trop le choix, en fait.
C'est la suite des liens coloniaux, quoi.
Pour certaines personnes, c'est un peu dramatique. Moi, comme je dis, moi, malgré tout, voilà, pour moi, ma situation, elle est vraiment dramatique. Je parle de ma situation parce que, voilà, je suis concerné dans ce contexte-là. Après, je parle pour tout le monde. Et voilà, comme je dis la dernière fois, je dis les trois quarts des gens qui sont ici, leur délit, c'est de ne pas avoir de papier, c'est tout. Moi, aujourd'hui, mon délit, c'est de ne pas avoir été naturalisé, En fait, je pensais pas que d'avoir une carte de séjour, c'est un délit. Je pensais pas que de pas être français, ben c'est un délit. Après, voilà, quoi.
Ouais, c'est ça le truc, mais c'est ce qu'on voit de plus en plus. C'est des personnes qui ont passé leur vie en France, comme toi, et juste en fait, à leurs 18 ans ou 16 ans, je sais plus à quel âge.
Bah, 18 ans, on n'est pas allé choisir, et ça a fait que.
Voilà.
Ça a fait qu'on est resté avec une carte de séjour.
C'est ça, tu croyais que c'était juste ta carte vitale que tu avais à faire, tu vois, et qu'en fait, il n'y avait aucune raison qu'ils puissent t'expulser. Et en fait, maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, voilà, quoi. Alors que j'imagine que...
Aujourd'hui, je veux dire, ils ne font pas la différence. Je veux dire, aujourd'hui, moi, j'ai deux enfants français qui portent mon nom, et c'est pas pour autant que tu ne veux pas me séparer d'eux. Je trouve ça un truc de fou. Sachant que ma femme, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur et qu'elle est seule... Et que moi je suis ici, il arrive quoi que ce soit à ma femme, mes enfants, je ne sais même pas où ils terminent.
Ouais.
C'est un truc de malade, en fait. C'est quand tu repenses à tout ça, tu dis, c'est pas possible, c'est ce qu'ils vivent. Comment ils peuvent en arriver jusqu'à là? En sachant que aussi, mes parents sont français. Mon père, il est rentré en 64 en France. Vous imaginez?
Non, mais oui, c'est clairement un truc de...
Ouais, c'est un truc où tu restes choqué, quoi. Même des agents de la PAF, ils sont choqués de voir certaines histoires, certains dossiers, quoi, certains trucs, c'est pas possible.
Après, ça les empêche pas d'expulser et de participer aux expulsions, tu vois. Ah, ils sont choqués, mais ils touchent leur salaire à la fin du mois, quoi.
Hein?
J'ai dit, ils sont choqués, mais ils touchent leur salaire à la fin du mois, quoi.
Ah, mais après, c'est sûr et certain, comme je dis, il y en a pour eux, voilà, on risque des chiffres ou des statistiques ou un pourcentage, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, après, pour certains, comme je dis, je fais pas d'amalgame sur tout le monde, je sais qu'il y a des agents que malgré tout... sur certaines personnes, ça les choque. En sachant qu'ils voient des gens qui sont là depuis 6 mois, 8 mois, 1 an, on les relâche. Et d'autres qui sont là depuis 40 ans, on les fait tirer 90 jours. Parce que moi, avec le mois que j'ai fait à Toulouse et les 2 mois ici, ça me fait 90 jours.
Bah, l'un comme l'autre, c'est intolérable, en fait. Enfin, voilà, quoi que...
L'un comme l'autre est intolérable, bien sûr. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je dis, s'ils arrivent à vouloir expulser des gens qu'ils ont des parents français, qu'ils ont vécu ici, qu'ils sont arrivés en 80, ils ne sont pas arrivés en 2018, en 2017 ou en 2015, ils sont arrivés en 1980, avant que Mitterrand soit président, avant que le premier CRA de France soit ouvert. Ça a été ouvert en 81.
Non, ça a été légalisé en 81. Hein? Ça a été ouvert en 74 et ça a été légalisé en 80.
Ah, excusez-moi. Bah, ouvert en 80.
Mais ça reste que, enfin, très vrai ce que tu disais.
Non, non, mais hein? c'est non, mais t'as complètement raison. Hein, en fait, enfin, c'est pas du tout pour te dire. C'est, mais je trouve c'est bien. Enfin, la formulation que tu disais, de, s'ils en arrivent à ça. Enfin, voilà, ouais, c'est.
On arrive à ça, en fait. Voilà,
c'est que. Enfin, déjà, des gens qui sont là, en fait, depuis trois semaines, en fait, ils ont pu construire des bouts de vie avec des gens et ils n'ont pas envie de les quitter. Voilà. Mais pour des personnes qu'on. Enfin, toi, j'imagine que t'as passé ta vie ici, t'es né ici.
J'ai dit en maternelle, moi. Je suis passé devant une juge. La dernière fois que je suis passé devant une juge, elle m'a dit oui, monsieur, comme vous avez l'autorité parentale sur vos enfants, pourquoi vous ne prenez pas vos enfants, vous n'allez pas vivre en Tunisie. Je dis mais madame, je vais vous poser une question. J'ai grandi où, moi? Elle m'a dit je ne sais pas. Mais je dis mais comment vous ne savez pas? Je vous ramène des certificats de scolarité de 1980 à 98, de la maternelle. J'ai bien grandi en France, moi. Alors vous voulez que j'emmène mes enfants dans un pays où moi-même, je n'ai pas grandi?
Non, mais ça n'a...
Vous imaginez ce que vous êtes en train de me dire? Et vous voulez en fait quoi, que je fais quoi, j'arrache les enfants, j'arrache mes enfants de leur mère? Parce que leur mère, elle est française.
Oui, puis ils ont leur scolarité aussi, j'imagine, de leur côté.
Ils ont leur scolarité, ils ont leur vie, ils ont leur stabilité ici. Et même moi, ça fait 24 ans que je suis pas rentré en Tunisie. Et même moi, ma famille, ils sont ici. Je veux dire, mes parents sont français, ils habitent ici, mes frères, mes sœurs, ils sont tous français. Je veux dire, vous me parlez de quoi? D'aller rejoindre ma famille? Ma famille est là.
Ouais, non, mais ça n'a vraiment aucun sens.
Je veux dire, voilà, vous me parlez d'un pays... d'un pays où ça fait j'ai jamais mis un pied. Pratiquement depuis l'âge de 2 ans, je suis parti en vacances.
Ouais.
Voilà. Je sais pas, il faudrait pour remettre les choses dans leur contexte ou quoi. Ça veut dire, je sais pas, c'est tout. Après, quand je vois que à des gens comme moi, ils arrivent à vous mettre dans cette situation-là administrativement et à vous mettre dans une situation très critique, parce que comme je vous ai expliqué, moi, ma femme, elle est seule, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de sœur, ses parents, ils ne sont pas là. Je veux dire,
non, mais c'est chaud, on est d'accord.
Il arrive quelque chose à ma femme, à mes enfants, et je ne sais pas où il termine. Et moi, je suis au CRA.
Ouais.
Ouais, puis un peu.
Et voilà, la situation, quoi.
Et juste, moi, j'avais une toute petite dernière question sur comment ça s'est passé, cette organisation, pendant cet été. Moi, je vois un peu... Enfin, tu vois, les communiqués qui sortent et tout ça, ça arrive de plus en plus que, en fait, les gens qui sont enfermés dans les CRA...
Les gens, en fait, au jour d'aujourd'hui, ils font faire là, une peine de prison complète, qu'à la base, quand on veut expulser un étranger et qu'un expulsé doit être expulsé, il a le droit de demander une conditionnelle au bout de 5 ans, enfin, au bout de la moitié de sa peine, c'est-à-dire qu'il fait la moitié de sa peine et il demande une conditionnelle d'expulsion. Mais moi, on me l'a jamais donné et on me l'a jamais proposé. On m'a fait faire ma peine de pleine, complète, jusqu'au dernier jour. Et à la fin de mes derniers jours, on m'a placé en rétention.
Mais voilà. Ouais, moi, je te parlais plutôt de... Enfin, là, cet été, en fait, ça s'est passé à Nîmes. Enfin, voilà, vous échangez avec les personnes qui étaient dans les CRA.
Il y a des gens qui sont à Nîmes, qui sont à Toulouse, qui sont à Truc. À Nîmes, à Toulouse, il y a eu des femmes qui ont été testées positives au Covid. Il y a beaucoup de gens qui sont en rétention, sachant que, comme je dis, beaucoup d'Algériens, beaucoup de Marocains, sachant que leur consulat ne répond pas et leur frontière est fermée. Ceux qui sont, ils les mettent en rétention des 2 mois, des 1 mois, des 1 mois et demi, mais pour rien. Yes. Parce que leur truc, je sais pas, c'est pour rien. Comme je l'explique, si on parle de chiffres, un retenu vaut entre 400 et 500 euros par jour aux contribuables français. Hein.
Ouais, mais pour eux, c'est pas la question, hein, parce que là, ça, c'est pour des questions de racisme d'État, de politique sécuritaire.
Pour qu'ils sachent que leur argent, ils partent, enfin, leur argent, il est consumé, et qu'en plus, l'État ne fait pas leur travail. Si on veut parler de travail. C'est-à-dire parce qu'ils savent très bien que les frontières sont fermées, ça ne sert à rien de garder les gens ici en rétention.
Bah, ça sert, parce qu'en fait, ça permet de continuer à mettre la pression sur tous les étrangers et étrangères en France.
Ils peuvent mettre toute la pression qu'ils veulent. L'Algérie, elle leur a dit ouvertement, j'ouvre pas. Mais je ne vous pas.
Mais n'empêche que les gens, ils ont quand même la pression d'aller en CRA.
Sans Algérien ou sans Algérien, en expulsion, je n'ouvre pas. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi tu les gardes ici, alors. Le Maroc, ça fait un moment qu'ils répondent pas.
Mais parce que du coup, en fait, c'est juste pour ça, je fais juste une parenthèse, mais en gros, le but du CRA, ça sert à la fois expulser, mais ça sert aussi à enfermer des gens pour leur faire peur. Et du coup, que les consulats ne répondent pas et que les frontières soient fermées, ça n'empêche pas l'État de continuer à enfermer massivement dans plein de CRA, tu vois.
Ah oui, non, mais c'est surtout pour les écœurer.
Mais exactement, tu vois, c'est ça.
C'est pour te sentir que tu ne sens pas un être humain, que tu es pire qu'une merde et que tu dis un moment à un autre, oui. Il y a des gens qui préfèrent, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent partir, c'est sûr, certain. Donc il n'y a pas de problème, je conçois, je l'ai compris même, parce qu'ils sont tellement écœurés et tellement écœurés de ce qu'ils sont en train de vivre, que c'est pas possible. Ah ouais, et moi, des gens comme moi, je ne peux pas abandonner mes enfants. Comme j'expliquais à la juge, je dis, madame, vous imaginez, vous voulez que je parte, vous voulez que je suis d'accord avec votre décision, et en fait, j'abandonne mes enfants.
Et
j'abandonne ma famille, entre parenthèses aussi, parce que ma famille sont tous là.
Du coup,
voilà, c'est ça.
Yes, ouais. Alors, je suis désolé parce qu'il nous reste que quelques minutes. Est-ce que tu crois que tu peux juste revenir là donc sur comment ça s'est passé quand vous êtes organisé à l'intérieur, comment vous avez décidé de tous vous mettre en grève de la faim à Marseille?
Parce que ça a été un mouvement collectif. Il y a Nîmes qui a commencé à faire la grève de la faim. Après, c'est passé. Le message il est passé ici. Les gens, ils ont arrêté de m'en témoigner. Après, il y a eu l'histoire de ne pas se faire tester pour pas être. Faut pas être testé avant de partir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé de tester. Après, comme je dis, on n'est pas non plus 300 à 400 dans un CRA, hein. On est 60, 70, ce que je veux dire, on n'est pas beaucoup. Hein.
Ouais, c'est plus facile de discuter et puis de s'organiser collectivement quand on est peu.
Oui, on s'organise, mais ouais. Bon, je veux dire, organiser, c'est un grand mot, hein, vous voyez ce que je veux dire, parce que bon, voilà, il y a beaucoup de gens, ils ont peur de parler aux médias, ils ont peur de parler aux journalistes, ils ont peur de parler aux associations, parce que pour eux, ils ont peur que ça se retourne contre eux, que après la préfecture bloque sur eux, que, vous voyez ce que je veux dire, que voilà, qu'ils font remarquer l'État français, alors ils ont peur d'avoir une sanction, voilà, proportionnée par rapport à ce qui se passe. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir peur, là, ils me disent, ouais, les blocages, enfin, les rassemblements et tout, c'est en train de nuire, ils sont en train de vouloir vraiment nous expulser. Je dis, mais les gars, avec ce rassemblement, s'ils veulent t'expulser, ils vous expulsent. Hein.
C'est ça.
C'est-à-dire que voilà, les gens, ils sont là plutôt à essayer de faire quelque chose pour éviter ça.
Et du coup,
c'est vrai que l'État français, dès que ça fait un peu de bruit, eh ben, ils éparpillent tout ça, quoi.
Mais je pense...
éviter que...
Je pense que c'est vachement important que tu le dises là, parce qu'en vrai, ça demande un courage de ouf de se battre à l'intérieur. Et c'est ce que tu décris là, tu vois, toutes tes peurs et tout ça. Et enfin, tu vois, nous ici, c'est ce qu'on veut faire, c'est toujours relayer ces paroles et tout ça. Mais faut pas, c'est pour ça qu'on les relaye en particulier, c'est qu'on sait qu'à chaque fois, c'est de la force de ouf qui est déployée à l'intérieur, des luttes hyper importantes et un courage de ouf.
Mais c'est obligé, moi j'ai une force
indélébile
par rapport à pour mes enfants. Comme je dis, jusqu'à mon dernier sou, je ne lâcherai pas le truc. Et même, de toute façon, je vais être avec toi. J'ai grandi ici, moi, je n'ai pas grandi là-bas. Depuis l'âge de 2 ans, je suis là. Je suis maintenant ici. Toute ma vie, j'ai passé ici. Mes amis d'enfance, voilà, ils s'appellent Julien Vincent. Je ne sais pas, tu vois, je veux dire, je n'ai pas. Voilà, quoi. C'est compliqué, tout ça.
Bien
j'avais
sûr.
Pensé dans ma vie, un jour, me retrouver dans une situation comme ça. Et maintenant, j'ai compris qu'il y a des gens comme ça qui existent. Et des fois, ben, on se retrouve avec tous ces gens-là, quoi. Et pour moi, malgré tout, ces gens-là, ben, c'est des êtres humains. Parce qu'il y a beaucoup qui ont quitté leur pays. C'est par rapport à la misère, c'est par rapport aux guerres, c'est par rapport à beaucoup à la déstabilisation du pays, qui n'est pas stable.
L'État français, il a un rôle. Moi, je me demandais juste, là, tu parlais des rassemblements dehors. Quand il y a eu le parloir sauvage, ça a mis un peu de patate dedans. Ça s'est passé comment?
Ouais, ça nous a mis de la force. Vous imaginez, comme il y a des gens qui sont là, ils m'ont demandé, mais qui c'est ces gens? Je dis, c'est des gens qui se rassemblent pour nous, pour les gens qui n'ont pas de papier, pour les gens qui sont expulsés. Et moi, j'étais plutôt pas choqué, mais j'étais perturbé de dire comment il y a des gens qui pensent à eux, enfin, en fait, qui pensent à des gens comme eux, parce que pour eux, ils n'existent pas, quoi.
Yes. Ouais, du coup, il y en a eu plusieurs. On reviendra, nous, la semaine prochaine dessus avec un appel d'un gars de Marseille qui racontera comment se sont passés un peu les rassemblements, parce qu'il y en a eu un à côté du CRA, là, ce que tu racontais. Il y en a eu aussi un, je crois, à la préfecture et peut-être au port, en tout cas.
À la préfecture, deux devant le CRA.
Deux devant le CRA, ok.
Et un devant la préfecture de Marseille.
Yes, et je crois qu'avec la participation de la CSP là, de Marseille qui s'était créée,
et avec, avec un député aussi, M. Lambert, un député.
Il y a toujours des gens qui viennent montrer leur face. Franchement, on va devoir terminer là parce que c'est la fin de l'émission, mais on te souhaite vraiment plein de force et plein de courage. Tiens-nous au courant de ce qui se passe demain et après-demain et tout ça. Il y a des rassemblements qui sont prévus pour éviter ce paquebot.
Si vous voulez que je vous passe quelqu'un d'autre qui peut vous racontez un truc, vous pensez que
c'est bah, là, pour l'instant, il va falloir qu'on termine l'émission, mais je pense que t'as déjà vachement bien résumé ce qui s'était passé et tout, et puis la lutte que vous faites à l'intérieur. De toute façon, ce micro, il est toujours, il vous est toujours ouvert. Donc voilà, peut-être on n'aura pas autant de temps, mais on pourra toujours relayer d'informations si t'as besoin, si tu veux nous dire des trucs et tout ça. Ce micro, il vous est ouvert, quoi. Donc voilà.
Un grand merci à toi.
À vous. Et...
Bah ouais, plein de force à toi, plein de force à vous tous à l'intérieur. Transmets bien toute notre énergie. Et puis voilà. Et normalement, je crois que l'émission, elle sera rediffusée sur Radio Galère du côté de Marseille, si je me trompe pas, mais je peux pas te dire quand. Mais donc, elle sera entendue de ce côté-là. Donc voilà. Plein de force à vous.
Merci à vous et merci à vous pour votre soutien.
Il y a pas de souci. On est là pour ça. Force à toi et puis j'espère à très vite.
Ouais.
Ok, merci beaucoup.
T'inquiète, à tout,
ciao.
Et du coup, rapidement, pour celles et ceux qui voudraient s'organiser du côté de Marseille, contre les centres de rétention, en soutien aux prisonniers en ce moment qui luttent, on a relayé le message là par rapport aux tentatives d'expulsion de la préfecture, ce sera sur le site. Voilà, donc on va continuer de relayer, juste pour dire que tous les mardis à 18h30 aux locaux du Mamba, donc 8 rue Barbarou, 13001 à Marseille, il y a les réunions de l'Assemblée contre les CRA, ou en tout cas d'un collectif qui se bat en solidarité avec les prisonniers là-bas. Et vous pouvez toujours contacter le Mamba, soit par son Facebook Collectif Migrant 13, et on reviendra plus longtemps la semaine prochaine là-dessus, quoi.
Ouais, et je pense qu'on va passer aux petites cases dédiées et tout. Juste pour dire que en ce moment, c'est le bordel à Bourg-en-Bresse. Voilà, avec le Covid, c'est des matons qui se sont fait une petite teuf le week-end dernier, qui se sont tous contaminés entre eux. Voilà, donc de fait, ça veut dire qu'il y aura un peu moins de matons, je pense, dans vos coursives. Je m'imagine que leur réponse toujours à ça, c'est toujours de dire de vous enfermer encore plus en cellule. Donc j'espère que ça sera pas le cas. Mais en tout cas, voilà, on pense fort aux gens qui sont à l'intérieur parce que ils savent très bien que les gars, ils avaient pas leur masque et tout. Voilà, donc comme d'hab, hein, les matons, vous êtes au top, complètement con et tout. Voilà, on va peut-être passer au petit coucou, il y a d'autres infos.
Ouais. Non, c'était pour...
Juste pour annoncer, la semaine prochaine, vendredi ou samedi prochain, ici, il y a un hommage pour l'ancien président... d'honneur de FPP, Maurice, alors je sais jamais prononcer. Rachus, je sais jamais le prononcer. Mais voilà. Et donc pour les dédicaces, il y a K qui transmet une pensée à Sam, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Prends soin de toi, lâche rien. Mike, pour les news. Mike, merci pour les news. J'espère que c'est bon pour le transfert et que c'est fini pour toi l'isolement. Jules, force, lâche rien, crève la tôle. La sortie, c'est sûr. Une grande pensée à l'infâme à Vedin. On les aura, ces chiens, et tu verras, on peut sortir du terminus. Force, courage et déter à JC à Nantes. Une pensée à Mounir. De la force aux familles et aux proches et à tous les prisonniers et prisonnières de France. Il n'y a pas d'arrangement et surtout Sylvia revient.
Ouais, attends, juste un gros coucou là aux copains de Ménil et aux prisonniers de Ménil qui ont pu écouter l'émission. On reviendra plus longtemps la semaine prochaine sur comment ça se passe et on continue de vous informer sur comment les expulsions ont marché ou pas à Marseille. Voilà, on tient au courant et une grosse dédicace aux copains enfermés à Fresnes, enfin particulièrement à notre poteau, quoi.
Ouais, moi je voulais passer un gros big up à Serge. J'imagine que tu as passé un big up au poteau à Fresnes aussi. Voilà, aux autres personnes à Fleury qui se reconnaîtront. Force, courage à tous. On fait aussi des gros bisous à Sylvia. Et on se retrouve la semaine prochaine. Rediffusion mardi matin à 8h30, je crois, ou 8h. On sait jamais trop. Voilà. Rediffusion aussi.
N'hésitez
dans plein d'autres fréquences.
Dans les lettres.
Voilà, et écrivez-nous des lettres. 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Force, courage et détermination à tout le monde. Et comme toujours, il n'y a pas d'arrangement. À la semaine prochaine. We'll be right back.
ça glisse. Les premiers fricotent les soirées, amis jusqu'au dents. Un whisky sans glaçon, puis ils prennent l'air méchant. Yo, les teufs sont peu nombreux à mon goût. Mes coups sur pour une bombe à éclat s'écartent du coup. Je me pose des questions que font livre et bandit. Après un braquage, sans ventile au lit. Je les croise au bar, un verre, un spliff dans la main. Double check, ça va la femme et les bambins. Tout bien, tout cool, toujours aussi discret dans la foule. Hors de question de se faire remarquer.
C'est pas ma boule.
Une embrouille. En cache entre quatre murs, à se branler sur ta batte à cache. En mauvaise posture, je t'assure, c'est vrai, les vrais braqueurs d'armes à la vue de tes actes.
Atomique, missile, monseigneur, et les braqueurs d'armerie.
Oh les gueurs, c'est de paix que l'on parle dans les mots.
Et ça louche et ça flash sur les bouches.
Vous portez directement à la mâchoire.
Atomique, missile, monseigneur, et les braqueurs d'armerie.
Oh les gueurs,
se pencher sur les bandits, sans hocher la tête vers qui c'est. Serait un oubli, sa pavure, nouveau record des bavures. Les taquins, la sécurité de rature pour l'élite de bonne allure.
95,
1er novembre, jour férié, le changement politique se répercute dans mon quartier. Un félin, fuit paumé sur un bonnet. Inquisté pour la patronne, mieux que l'ambulance sous les pompiers. Ça, sur mes frères, les cow-boys affrontent les apaches. Comme ce mec que du bled qui crie à l'aide. Tout au préjugé de paix, éliminé. Est-ce le bon remède et de l'ordre de la chose. Les traits sont plus importants.
Chercher la cause eux
à qui je m'adresse.
Bleu,
de la haut garde
blanc.
Légitime défense, un théorème invaillible contre ceux qui dérangent. T'en as que foutre, tant mieux. Les fachos font la fête, moi le steak est intelligent. Puis lui crouille, lui paraît bête.
Atomique, missile, monseigneur, et les braqueurs d'armes.
Mode d'emploi. Mode d'emploi.